L'esprit critique. Mediapart.
On termine cette émission non pas avec une exposition, mais avec un ouvrage sorti récemment. Il s'intitule « À qui appartient la beauté ?», est publié par les éditions La Découverte et signé Bénédicte Savoie. Cette professeure d'histoire de l'art à Berlin, passée également par le Collège de France, est la co-autrice avec l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr du rapport remis à l'Élysée sur la restitution du patrimoine africain. Elle a signé l'an dernier au Seuil un livre intitulé « Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale ». Et elle propose cette fois un parcours plus large et plus grand public qui reprend ses recherches et son travail en suivant le parcours d'œuvres, éléments de rites ou de décorations, artefacts qui se sont retrouvés dans les musées occidentaux, le buste égyptien de Nefertiti exposé à Berlin, l'autel de Pergame transporté de Berlin dans le cadre d'un accord avec l'Empire ottoman réclamé aujourd'hui par la Turquie, les têtes de bronze du palais d'été de Pékin, la statue de la reine Bangoua du Cameroun ou aussi le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt ou bien encore les trésors royaux du Bénin. Peut-être un premier mot sur le choix d'écrire ainsi une histoire à partir des objets comme quasiment des monographies. Est-ce que cela déplace ou ajoute quelque chose par rapport aux précédents travaux de Bénédicte Savoie, Margot Nguyen?
Ben moi, j'avais lu la leçon introductive en fait, de son cours au Collège de France qui s'appelait « Objet du désir, désir d'objet », dans la suite de quoi en fait, cette publication s'inscrit. Et je dois dire que je me suis vraiment laissée captiver et transportée par ces exemples, ces différents exemples que je trouve extrêmement pertinents dans leur variété, en fait, puisque c'est vraiment des cas de figure tous très différents, en fait, qu'elle analyse et qu'elle
étudie. Oui, c'est pas du tout seulement le pillage colonial de l'art africain auquel elle est souvent identifiée.
Voilà, et je trouve que cette mise en perspective du fait de ce qu'elle appelle les translocations, donc la mise en exil des objets, elle est extrêmement intéressante pour réfléchir à une échelle plus large. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la manière dont elle croise des écrits d'artistes, en fait. Donc, c'est très intéressant de voir qu'à chaque étape du parcours de ces objets ont été regardés par les artistes. Et donc, cette histoire de la réception, en fait, je trouve qu'elle est très présente dans le livre et elle est très, très bien amenée. Et tout ça est croisé à d'autres perspectives, des perspectives plus géopolitiques. Il y a beaucoup de cartes et de schémas, mais aussi beaucoup d'analyses politiques, en fait, des rapports de force en fait dans la constitution des collections au 19e, et c'est ça aussi la force de ce livre, c'est de montrer qu'en fait il s'agit dans la construction et l'érection des musées au 19e, il s'agit aussi d'une course à l'impérialisme et d'une rivalité entre les empires donc britanniques, prussiens et français. Enfin, c'est quand même ce schéma-là qui revient constamment à travers les exemples. Et j'ai aussi beaucoup aimé la manière dont elle peut le transliter ou le relire, enfin venir jusqu'au présent, puisque donc notamment dans ce dernier exemple des restitutions de novembre 2021 et de l'arrivée des objets à Cotonou, on se rend bien compte que toute cette perspective historique, en fait, elle vient activer quelque chose dans le présent. Et c'est ça qui est assez formidable aussi, c'est de se dire que de regarder l'histoire permet aussi de proposer des gestes de réparation ou en tout cas de la réflexion et d'activer
qui se trouvait précisément dans le rapport qu'elle avait
co-signé
2018, avec
Felwine Sarr.
Magali Lassauvage, sur cette question, effectivement, elle part de ce qui est dans les collections aujourd'hui des musées occidentaux, mais ces collections peuvent être issues de spoliations nazies, de pillages coloniaux, mais aussi parfois du marché de l'art, même si les termes peuvent en paraître inégaux. Est-ce que ça peut prêter à confusion ou au contraire, est-ce que ça permet de montrer quelque chose des lieux et de l'importance des lieux là où ça manque et là où ça se trouve?
C'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange de mélanger le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Klimt, par exemple, avec la reine Bangoua du Cameroun, qui ont des histoires complètement différentes, de mêler les spoliations nazies au sac du palais d'été de Pékin par les Britanniques. Et en même temps, je pense que le point commun dans tout ça, c'est qu'on voit à quel point les œuvres d'art, les objets précieux peuvent être pris en otage par des idéologies et servir des projets politiques, des projets idéologiques, sans parler des projets financiers, évidemment, parce qu'il y a aussi, évidemment, l'accumulation de capital de l'Europe, par exemple, donc pendant la colonisation, qui était non seulement, évidemment, d'abord les marchandises, d'abord les ressources naturelles des pays, mais aussi, donc, les œuvres d'art, qui, en fait, finalement, sont traités un petit peu de la même manière, on voit à quel point, en fait, c'est pris dans des combats idéologiques. Et ça, je pense que c'est assez clairement dit dans le livre. On voit aussi les énormes paradoxes, en fait, qu'il peut y avoir dans la justification occidentale à ces saccages. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'archéologie, on voit qu'il y a des régions entières qui ont été mises à sac par des armées, puis par des archéologues qui sont passés juste après eux, qui ont ramené des œuvres dans les musées européens, et qu'on prétendait que ces pays-là n'avaient pas, de toute façon, étaient devenus, par exemple, je pense à l'Égypte, étaient devenus de toute façon trop arriérés, en gros, intellectuellement, pour pouvoir s'occuper bien de ces objets, et qu'il n'y avait qu'en Europe qu'on pouvait avoir des scientifiques assez aguerris pour prendre soin de ces objets, pour les étudier, etc. Alors qu'en fait, la prise de ces objets provenait d'une violence, d'une barbarie, en fait, qui était quand même claire. Donc, en fait, il y a...
Oui, ce discours sur la protection des objets, le fait même quasiment de les sauver, demeure quand même assez actif.
De les sauver de la barbarie en étant soi-même barbare, en fait. Enfin, je veux dire, il y a quand même... Elle montre très bien ce paradoxe, en fait, qui est devenu aujourd'hui, je pense, pour nos sociétés... complètement insupportable, et en fait c'est plus possible, en fait, de réfléchir comme ça. En fait, c'est plus possible de dire que les pays d'Afrique ne peuvent pas s'occuper de leur propre patrimoine. C'est plus possible de dire à une famille de juifs, par exemple, enfin d'héritiers juifs, de leur dire on vous rend vos œuvres, mais si c'est pour aller les vendre chez Christie's, en fait non, ils en font ce qu'ils veulent, en fait ça appartenait à leurs aïeux, ils en font ce qu'ils veulent. Enfin, en fait c'est plus possible de dire nous, en fait, on sait s'occuper des œuvres, nous on sait les mettre en valeur. Et alors il y a aussi tout ce mythe du musée universel qui tombe, c'est-à-dire que le musée universel, c'est pour qui? C'est en fait, c'est, si vous avez la chance d'être à Paris, de pouvoir aller visiter le Louvre, de dire en fait, mais on les montre à tout le monde, mais en fait non, c'est pas tout le monde qui va au Louvre, en fait. Donc toute cette condescendance occidentale, toute cette supériorité quand même, qui préside en fait à la formation des musées et qui continue, parce qu'on a, il y a encore 10 ans, une dizaine d'années, il y a eu cette fameuse lettre des directeurs des plus grands musées du monde, du Met au Louvre, etc., qui disait, mais les restitutions, attention, ça va trop loin, c'est nous qui savons préserver les œuvres, c'est nous qui savons les montrer, etc. C'est nous qui les avons, qui avons enrichi leurs connaissances. En fait, ça, c'est fini, il faut arrêter maintenant avec ça. Et ça, elle le dit de manière assez subtile avec tous ces exemples. Et je trouve ça assez bien d'avoir réussi à résumer ça de manière assez claire.
Oui, sans rentrer justement uniquement dans la manière dont souvent le débat est constitué. Elle choisit quand même, je voudrais revenir sur ce terme que vous avez employé à sa suite, Margot Nguyen, de translocation, pour qu'elle préfère à tous les termes de pillage, spoliation, appropriation. Il faut savoir que c'est à l'origine un terme de chimie génétique qui désigne un échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation. Et donc, c'est un échange impliquant des mutations. C'est assez joli comme idée. Elle dit que ça dépolitise pas les choses. Néanmoins, est-ce que le terme n'est pas un peu neutre parfois par rapport à certains des parcours qu'elle montre elle-même ?
Ce qui est assez beau, c'est qu'elle arrive à montrer l'importance d'être proche de sa mémoire, et tout ce qu'elle nomme, donc la mise en scène de la présence, de l'absence, ou encore les recherches de ce groupe de recherche en Allemagne avec lequel elle est en lien, qui ont créé cet atlas de l'absence, en fait, qui recense les objets donc qui ont été pris par l'Allemagne au Cameroun. Et je trouve que justement, c'est très subtil d'avoir cette ambition de penser le manque. Et elle nous met sur la voie, comment donner encore plus d'ampleur à cette recherche. Elle parle d'une chercheuse égyptologue qui s'appelle Monica Anna et qui travaille sur les contextes extractifs des fouilles archéologiques. Donc moi, je trouve que justement, en utilisant ces propres concepts et ses propres termes, elle donne la voix et elle donne de l'espace aussi à plein d'autres chercheuses qui mènent ces recherches sur le manque, l'absence, l'éloignement de ces objets, ou à contrario, et ça s'inscrit, je pense que ça résonne très bien avec d'autres artistes ou intellectuels ou chercheuses qui vont plutôt penser le retour de ces objets. Et je pense au très attendu film de Mati Diop d'Ahomé, et de montrer à quel point translocation, relocation, dès qu'il y a mouvement de ces œuvres d'art, en fait, ça produit quelque chose de très fort, en fait. Et quelle que soit la manière dont on documente ce départ, ce retour, la tâche actuelle est de mesurer l'impact de ce que nous font ces œuvres d'art.
Vous évoquiez à l'instant le film donc de Mati Diop qui vient d'obtenir l'Ours d'Or à Berlin. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle
elle montre que le cinéma quasiment a été, y compris le cinéma très grand public, a été presque précurseur dans certaines des questions qui se posent aujourd'hui. Alors, pas forcément avec des bons films, mais elle parle de Monuments Men, donc réalisé par George Clooney, ou d'un film qui s'appelle Chinese Zodiac, qui n'a pas été beaucoup distribué en France, mais réalisé et interprété par Jackie Chan, où Jackie Chan vient récupérer en France certaines œuvres pillées au Palais d'été à Pékin.
Alors oui, Monuments Men, il faut savoir que c'est un très mauvais film, à mon sens en tout cas, et qui certes essaye de raconter un peu cette histoire, mais c'est très caricatural. Les Américains, évidemment, sont formidables. Enfin, ils ont tout compris. C'est vraiment la civilisation supérieure qui arrive pour sauver l'Europe de voilà. Enfin bon. Donc, je pense qu'il faut un petit peu limiter la référence à ce film. Pour le film de Jackie Chan, il n'est peut-être pas très connu en France, mais c'est quand même un énorme blockbuster en Asie et aux États-Unis aussi peut-être, mais en tout cas c'est un film qui par ailleurs a quand même une audience énorme. Nous on s'en rend peut-être pas compte en France.
Et un discours très intéressant.
Et un discours très intéressant et qui suit quand même, faut le bien dire, la politique officielle de l'État chinois. Donc qui reste quand même, c'est pas subversif en tout cas pour un Chinois. Voilà. Mais moi il y a quelque chose que je voulais souligner d'ailleurs par rapport à ces choses qui sont très connues du public, c'est qu'on ne parle quasiment pas des marbres du Parthénon qui sont au British Museum et qui sont l'exemple le plus connu, le plus médiatisé, dont on a... Dans l'introduction, je crois qu'elle elle mentionne rapidement.
Elle mentionne la manière dont Lord Byron avait critiqué la manière dont Lord Elgin avait ramené les frises du Parthénon.
C'est
justement en disant que ce discours critique venu de certains occidentaux avait complètement été effacé au profit d'une appropriation sans contestation, même si aujourd'hui, il y a quand même vraiment des grandes discussions en Grèce, en tout cas.
Bah, alors que c'est vraiment l'exemple le plus connu dont beaucoup de gens connaissent l'histoire et qu'il y a très régulièrement effectivement des allers-retours diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Grèce à ce sujet-là. Et là, c'est assez curieux qu'elle n'en parle pas, je trouve, parce que...
On a l'impression que justement, elle a voulu peut-être éviter le sujet le plus principal pour s'intéresser à des modes un peu plus différents. Parce que moi, ce qui m'a aussi séduit
dans... Oui, mais
c'est
pas comme si les autres exemples n'étaient pas connus. Enfin,
non, mais sauf que ce que je trouve séduisant dans le livre, c'est qu'on voit à la fois que... les grands cadres évoluent de la compréhension, de la réception, de la manière de penser à la fois ce que l'objet fait au lieu où il arrive, où il est arrivé et au lieu où il manque, mais en montrant que malgré tout, il reste du cas par cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer une fois pour toutes la manière de faire. Avec les différents modes d'appropriation, les différents modes de présentation et des fois des questions. Elle dit même qu'il y a parfois dans des langues parlées dans les régions victimes de dépossession où les termes de musée et de patrimoine sont intraduisibles.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que chaque chapitre se termine par des questions. À qui appartient l'hôtel de Pergame, par exemple? Est-ce qu'il appartient, donc, sachant que Pergame, c'est en grec, mais en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, donc est-ce qu'il appartiendrait aux Turcs? Est-ce qu'il appartient aux Allemands qui le conservent depuis un siècle et demi? Est-ce qu'il appartient à tous les archéologues et chercheurs qui l'ont étudié? Et elle pose des questions, elle ne donne pas de réponse, forcément. Et ça, je trouve ça très bien, en fait, ce côté, justement, pas autoritaire. Elle ouvre le débat, elle ouvre les questions, elle ne dit pas... Alors, évidemment, on sait qu'elle a œuvré et qu'elle continue à œuvrer pour la restitution, par exemple, des œuvres au Nigeria, au Cameroun aussi. Mais en tout cas, ça reste un débat ouvert. Et à la toute fin, dans la conclusion, elle fait une distinction entre possession et propriété. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la possession, c'est justement les marbres qu'on dit Elgin, enfin, en tout cas, les marbres du Parthénon, sont dans la possession du British Museum à Londres, enfin de la Grande-Bretagne. Mais la propriété, ce serait le droit légal, en fait, sur ces œuvres. Et ça, cette propriété, elle peut être discutée. La possession, bon, de fait, elle est aujourd'hui en Grande-Bretagne.
Et l'avantage de la propriété, c'est qu'elle peut être divisée. Il y a des propriétés, on peut imaginer une propriété intellectuelle, une propriété... Enfin, voilà, c'est un concept juridique qui se divise. Margot Nguyen, d'un mot.
Ce journal des translocations, en effet, il montre une voie juste, je pense, sur... comment est-ce que l'histoire de ces objets en fait, peut amener à réparer par la justice dans le présent. Donc ça, je suis très touchée. Et puis j'aime aussi l'humilité qui est la sienne, parce qu'elle dit à plusieurs reprises que la question de la beauté est assez rhétorique. Et c'est vrai, c'est plus un fil rouge pour répéter à la fin de chaque chapitre la question. Et donc je trouve que la place... la place qui est laissée à ce concept, voilà, est très humblement mise à sa place.
À qui appartient la beauté de Bénédicte Savoie, c'est publié aux éditions La Découverte. Merci infiniment à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beune.